VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Soudan du Sud, le journaliste sud-soudanais Isaac Vouni, enlevé en juin, a été retrouvé mort. A annoncé ce mercredi Reporters sans frontières, qui a appelé les autorités sud-soudanaises à faire toute la lumière sur ce meurtre. Le corps de Vouni a été découvert lundi dans une ferme située près du village de Kerepi, où vit sa famille, dans le sud du pays, à la frontière avec l'Ouganda, selon des proches cités par le quotidien Sudan Tribune, rapporte RSF dans un communiqué. Le journaliste indépendant avait été kidnappé avec son frère Andruga dans la maison familiale le 4 juin. RDC, une enquête indépendante sur les récentes violences en République démocratique du Congo est nécessaire pour éviter une aggravation de la crise. C'est ce qu'a déclaré ce mardi à Genève une responsable des Nations Unies, le point avec Nani Talani.
Selon la haute commissaire adjointe aux droits de l'homme Kate Gilmore, une enquête indépendante, transparente et crédible est nécessaire pour traduire en justice les auteurs et les instigateurs des violences à Kinshasa les 19 et 20 septembre dernier. Entre 32 et 100 personnes ont été tuées en marge d'une manifestation de l'opposition à 3 mois de la fin du mandat du président Joseph Kabila le 20 décembre. D'après Kate Gilmore, le bilan est de 49 civils tués et 127 blessés, semble-t-il, par la garde républicaine, l'armée et la police. 4 policiers ont également été tués. Kate Gilmore appelle tous les protagonistes à faire preuve de volonté politique pour éviter une aggravation de la situation. Alexis Tambwe Mwamba, ministre congolais de la Justice et des Droits Humains, a assuré hier à Genève qu'il n'est pas question de violer la Constitution, que l'élection sera organisée et la date sera arrêtée en coopération avec les organismes internationaux, dont les Nations Unies.
Le nord-ouest de la RCA en proie depuis plusieurs jours à des violences qui auraient déjà fait plus d'une dizaine de morts et des milliers de déplacés. Les précisions de notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Plusieurs localités de la préfecture de Lompindi sont passées ces jours-ci sous le contrôle des hommes du général Sidiki, un chef rebelle peul originaire du Cameroun. Aujourd'hui, c'est la commune de Dégol qui est visée par une attaque de ces hommes armés. Les détonations des armes lourdes et légères ont obligé plusieurs centaines de familles à fuir vers la ville de Bokaranga, située à 40 km de Dégol. Pourquoi cette flambée de violence? Les autorités locales expliquent que le général Sidiki assure avoir reçu l'aval de Bangui pour sécuriser la région du Nord-Ouest. Propos formellement démentis par Jean-Serge Bokassa, ministre centrafricain de la Sécurité publique. Joint au téléphone par VOA Afrique, le général Sidiki parle d'une opération de ses hommes pour sécuriser les éleveurs et leurs troupeaux régulièrement menacés par des miliciens anti-Balaka. Ces nouvelles violences condamnées par Bangui auraient déjà fait une dizaine de morts, de nombreuses habitations incendiées et des milliers de déplacés. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Tchad, plusieurs anciens membres de la secte islamique nigériane Boko Haram ont fait défection. Ils ont regagné leur pays natal la semaine dernière au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la région du lac, Adoum Fortey, une zone considérée comme porte d'entrée de Boko Haram au Tchad. Plus de détails avec notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajinga.
Ils sont une soixantaine, dont 3 femmes, tous originaires de la région du lac, à abandonner leur explosif pour regagner la légalité. Ce ralliement alimente les débats dans les milieux sociaux professionnels. Pour beaucoup de Tchadiens, Boko Haram n'est pas un mouvement politico-militaire pour décider de déposer les armes et faire la paix avec le gouvernement. Analyse du politologue et constitutionnaliste, professeur Ahmad Mahamad Hassan.
Ce ralliement veut dire tout simplement que Boko Haram ne se retrouve pas dans ses centres des opérations. Il n'arrive pas à avoir une base, de ralliement et de recrutement. Il y a une désaffection de la part de la jeunesse qui ne croit plus à l'action Boko Haram et à la philosophie de Boko Haram dans le cadre d'une certaine instauration de l'État islamique, d'un certain nombre de luttes contre les mécréants, etc., etc. L'élément central, c'est que la jeunesse tchadienne ne s'est pas appropriée de la philosophie Boko Haram. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important.
Pour les ADH, Association pour la Défense des Droits de l'Homme, ce ralliement est une plaisanterie de mauvais goût. Banadi Boguel Purus en est le vice-président.
Est-ce que c'est un ralliement stratégique? ça, nous émettons encore de réserves compte tenu du fait que c'est des personnes qui ont été endoctrinées et qui ne vont pas tout de suite changer d'avis. S'ils le font maintenant, est-ce que ce n'est pas une façon d'infiltrer pour avoir un maximum d'informations et faire ensuite des attentats? À ce niveau, nous demandons au gouvernement d'être vigilant et prudent pour ne pas qu'il y ait encore des pertes en vies humaines. Le fait de regagner le bercail est une chose, mais le fait que les autres ont perdu les leurs en est une autre et il va falloir que justice soit rendue à ceux qui ont perdu les leurs.
Le gouverneur de la région du lac Adon Forte rassure l'opinion nationale en ces termes.
La sécurité à elle-même, c'est garanti parce qu'on est obligé de mettre un dispositif sécuritaire pour également faire comprendre à la population que ces gens-là, on ne va pas les laisser à ceux qui, même s'ils ont de mauvaises intentions, de faire quelque chose effectivement. Donc ils sont bien logés, bien restaurés. Les services de renseignement vont continuer à faire des auditions afin qu'on puisse voir quelles sont vraiment les intentions réelles.
Compte tenu de l'insécurité qui prévaut dans cette zone, la région du lac est toujours sous le régime de l'état d'urgence instauré depuis novembre 2015. Et c'est dans ce cafouillage que quelques éléments de Boko Haram retranchés dans les îles abandonnées du lac ont fait un éclat. Ils ont eu un accrochage avec l'armée tchadienne le week-end dernier à Kaïga, à la frontière nigérienne. Bilan, 4 morts et 6 blessés côté tchadien et 7 éléments de Boko Haram ont été tués selon le service de sécurité. André Kodouma Dingar, à l'est du Tchad, pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
L'Afrique de l'Ouest maintenant. Le Mali doit prendre ses responsabilités afin de faciliter l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur des États-Unis à Bamako, Paul Fornsby, lors d'un point de presse ce mardi dans la capitale malienne. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, y a assisté.
Selon l'ambassadeur des États-Unis au Mali, son pays a des positions sans ambiguïté. Paul Folsby, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali.
Le gouvernement du Mali doit assumer une plus grande responsabilité pour la mise en œuvre du processus de paix. L'accord de paix exige que certaines mesures de base de renforcer de la confiance soient prises immédiatement. Le gouvernement malien doit aller au-delà de l'adoption de lois et de mise en place des commissions et de se concentrer sur l'extension de son autorité sur l'ensemble du Mali.
Le gouvernement du Mali doit prendre son rôle de leadership afin que la crise puisse connaître son épilogue. Mais cela ne peut se faire tant que les groupes armés continuent avec la violence.
Nous avons dit à tous les groupes armés, tous les groupes, Gatia, Atseiwa, tout doit arrêter les actes de violence, les actes de terrorisme. S'ils ont des liens au terrorisme, comme le SCOA, comme le Gatia, ils doivent arrêter. Ça, c'est notre message à tous les groupes. Ça, tous les actes de violence doivent arrêter. Il y a la possibilité d'avoir la paix maintenant.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'ancien président et premier ministre israélien Shimon Peres, prix Nobel de la paix en 1994, est mort à l'âge de 93 ans ce mercredi matin, deux semaines après avoir été victime d'une attaque cérébrale. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Ce vétéran de la politique israélienne est décédé ce mercredi matin près de Tel Aviv, où il avait été hospitalisé à la suite d'un AVC et placé dans un coma artificiel le 13 septembre dernier. Shimon Peres avait été l'un des artisans des accords de paix intérimaires d'Oslo, conclus avec les Palestiniens en 1993. Avec Shimon Peres disparaît une figure historique, dernier survivant de la génération des pères fondateurs de l'État d'Israël. Engagé dans la vie politique avant la naissance de l'État juif, ce vétéran a participé à 12 gouvernements et a été premier ministre à deux reprises. En 1994, il partageait le prix Nobel de la paix avec l'ex-premier ministre Yitzhak Rabin, son rival et partenaire et le Palestinien Yasser Arafat. Le président américain Barack Obama a salué la mémoire de l'ancien président israélien Shimon Peres, soulignant qu'il n'avait jamais cessé de croire en la possibilité de la paix.
Conflit en Syrie maintenant, les deux plus grands hôpitaux dans la partie rebelle de la ville syrienne d'Alep ont été touchés ce mercredi à l'aube par des frappes aériennes, ce qui les a mis temporairement hors service. C'est ce qu'a affirmé à l'AFP, l'ONG qui soutient ces établissements. L'attaque est survenue à 4 heures du matin. Un avion militaire les a visés directement. a indiqué Adam Saloul de l'ONG Medical Syrian American Medical Association, basée aux États-Unis. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.